Salut les amis, bienvenue dans le plein de super. Je suis Ringside. Vous écoutez le podcast qui vous parle de meilleur de la bande dessinée américaine. Aujourd'hui, on va parler d'une pépite cachée de l'histoire de la Marvel. On va évidemment aller dans les années 80, 1983 pour être précis. On va parler du Daredevil, scénarisé par Denny O'Neil, avec au dessin notamment l'arrivée du grand David Mazzucchelli. Pour ce faire, je ne suis pas seul. Je suis accompagné des inusables, des spécialistes, des génialissimes, notamment le Lord of Babylon, mon bon Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Et votre barman Isaac.
Isaac, objection.
Objection. Objection. Objection. Il n'est pas d'accord.
Ouais. Ouais. Objection. Je me mets un peu dans la peau là de... puisqu'on on va parler de l'avocat aveugle, donc moi je. Dans la peau du procureur.
Objection. Bravo. Bravo, bravo. Et oui, Matt Murdock, c'est aussi un avocat, pas qu'un justicier aveugle. Hein. Donc, on va aller un peu traîner du côté de l'hôtel de justice de New York. Un peu partout, au Japon, d'autres endroits aussi. À Venise, on va aussi aller.
Hein. Ouais.
On va voir du pays. Romantique. Daredevil, donc 195 à 226, qui a été publié donc de juin, enfin du moins qui est daté de juin 1983 à janvier 1986, et avec la mise en vente en février 83 à septembre 85, selon la fameuse règle de mise en vente des comics et de datation. Si vous voulez en savoir plus, dites-le nous dans les commentaires, on vous en parlera, je vous expliquera tout. En France, c'est publié dans Strange 186 à 207, c'est un peu charcuté de tous les côtés. De juin 85 à mars 87, la censure est là. Et effectivement, on va nous enlever quelques bonnes pages. Hein. Mais ça a quand même marqué son époque.
Hein. On passe de quasiment 2 ans et demi, presque 3 ans, à juste 2 ans.
Donc, ouais. Voilà, c'est un peu le Reader Digest. Avant le. Enfin quoi que je ne sais pas depuis quand ça existe Reader Digest, c'est peut-être plus vieux. Donc au scénario, comme je le disais, Denny O'Neil, assisté par la suite de David Mazzucchelli, qui va un petit peu travailler au scénar aussi. Il y aura aussi quelques fill-in tout au long de ce run, avec notamment un passage très remarqué d'Arlan Ellison, qui est accompagné d'Arthur Bryon au scénario, Arthur Bryon cover pardon. On aura aussi Stephen Grant et Jim Mosley, a.k.a. Christopher Priest, mais aussi et surtout un fill-in par Frank Miller lui-même, avant que soit annoncé son retour. Il y a aussi Jim Shooter qui va écrire le numéro consacré à Secret Wars numéro 2 de 223 pour être précis. Jim Shooter dans ses œuvres, hein, qui n'est pas trop content de ce qu'on lui a écrit. Alors, il réécrit tout, hein, tout simplement. Car il n'aime pas trop qu'on touche à son Beyonder, chérie. Et au dessin, on aura d'abord Klaus Janson, qui termine son run en tant qu'encreur et dessinateur en partenariat avec Frank Miller. Puis l'arrivée de William Johnson. Et ensuite, badaboum, David Mazzucchelli arrive au dessin. Et là, c'est la claque phénoménale. On aura aussi des fill-ins dessinés par John Buscema, excusez du peu, Luke McDonnell, Jeff Isherwood, en tandem. Et vous aurez aussi même Dan Jorgens, hein, je crois qu'il passe.
Ouais.
Un jeune Dan Jorgens. Aux couleurs, Bob Sharen, Christy Schill, George Rousseau, Glynis Oliver, etc. Les éditeurs, donc qu'on soit clair, Linda Grant, Bob Budiansky, Michael Higgins, Ralph Macchio, et l'éditeur in chief, Toujours Jim Shooter, l'inusable Jim Shooter. Peut-être qu'un jour, on devrait faire une émission spéciale Jim Shooter pour tout vous expliquer.
Ouais.
Voilà, alors, pour replacer dans le contexte, hein, 1983, donc une époque de grande tension, aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, c'est l'époque des contrastes, on en a déjà parlé de 83, hein, je crois que c'est pas la première fois qu'on vient de tourner dans la région. N'hésitez pas à écouter nos anciennes émissions si vous voulez en savoir plus. Mais surtout, sur Daredevil, Frank Miller vient de quitter la série. Il faut trouver un remplaçant après son run mémorable qui a cartonné. Denny O'Neill, qui est alors éditeur de la série, pense que le meilleur pour relever le défi, bah, c'est bien lui-même. Donc il lâche les rênes éditoriale à son assistante et il prend en main le scénario. Alors, est-ce qu'il va effectuer un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'a fait Frank Miller ? Je ne sais pas, mais déjà, Isaac va nous faire un petit peu le topo de l'intrigue, du résumé de ce qui se passe.
Oui, alors il y a trois grandes lignes narratrices, en fait, dans ces quasi trois années là de d'écriture de Denny O'Neill. On peut dire que jusqu'au numéro 200, Daredevil est occupé par un voyage au Japon. Il va essayer de retrouver la trace de Bullseye, donc, qui a été kidnappé par un clan de Yakuza. Et Bullseye qui va recevoir un squelette en adamantium de la part d'un scientifique, donc un scientifique qui est notamment le père d'une jeune japonaise qui va devenir plus tard Lady Deathstrike. Donc c'est la première apparition du personnage de Lady Deathstrike avant qu'elle ne devienne cette super vilaine. Ça c'est jusqu'au numéro 200, donc c'est vraiment, y a cette montée progressive de Matt Murdock qui va sur les traces de son pire ennemi, celui qui a tué sa Electra chérie, puisqu'on est vraiment très peu de temps après la mort puis la résurrection, on va dire, qui est cachée aux yeux de Matt Murdock. Matt Murdock ne sait pas que la résurrection que le clan de la main a opéré sur Electra a fonctionné. Donc lui, pour lui, Bullseye a toujours assassiné son amour de jeunesse. Quand il revient de ce voyage au Japon, il rencontre un autre exilé qui est Mikasin. Donc qui est alors là c'est un peu tiré par les cheveux ce personnage. C'est un sauvage, un chef de tribu qui vit en Afrique et qui sa tribu en fait est uniquement composée de blancs qui sont les descendants de colons anglais qui se sont perdus en Afrique il y a des siècles et en fait qui ont vécu en autarcie et qui sont complètement coupés de la civilisation et qui s'appellent les King George puisque les colons anglais venaient de cette époque, l'époque du roi George. Alors, je sais plus, je vais complètement me planter, je pense, en disant que c'est soit le 17e, soit le 16e siècle. En tout cas, c'était il y a longtemps. Et donc, Mikasin arrive à New York. Il va être petit à petit. Donc, c'est une grosse brute, hein, il faut le dire, Mikasin. C'est pas un mec très sympa. Mucho macho. Et il va décider un peu de prendre le contrôle de New York, mais aussi de prendre le contrôle de la femme de Foggy, qui visiblement n'est pas contre. En parallèle, on a l'arrivée de la nièce de la femme de Foggy. Donc, si vous suiviez, c'est la nièce par alliance de Foggy, qui est Gloriana O'Brien, qui est une jeune Irlandaise photographe, qui vient à New York et qui va devenir un peu la nouvelle petite amie de Matt Murdock. Petit à petit, une romance va naître entre eux. Ça, c'est ce qui nous occupe jusqu'au numéro 214. En gros, 200 à 214, il y a ce fil rouge de Mikasin, toujours coupé, comme on va le voir, par des interludes, des one-shots, qui sont souvent, je trouve, en tout cas dans cette saga, plus intéressants que la saga principale. Néanmoins, il se passe quelque chose quand même d'intéressant dans cette saga avec Mikasin, c'est que Mikasin, voulant prendre le contrôle de New York, va s'opposer au Caïd, et le Caïd va faire une alliance avec Daredevil. Et c'est notamment une période où on va commencer à voir les lignes un peu se brouiller entre le bien et le mal pour notre héros, Avocat Avel, qui était déjà un thème qui pointait dans les épisodes de Frank Miller. Et ensuite, à partir du 215 jusqu'à la fin, jusqu'au départ de Denis O'Neill et le retour de Frank Miller, on a droit à un fil rouge qui sont les ennuis financiers de Foggy et Matt, puisque leur cabinet d'avocats ne va pas très bien suite à l'affaire Mikassine, puisque ce couillon de Foggy n'a rien trouvé de mieux que de défendre Mikassine, manipulé notamment par sa femme, et c'est perduré. Donc du coup, ça le fait moyen pour vendre, en gros, les avocats Nelson et Murdoch, la réputation en prend un coup. Les clients se font rares et Matt Murdoch, qui est toujours un peu bouleversé par la mort d'Electra, par son ambiguïté morale, le fait qu'il a de moins en moins envie en fait, de passer du temps au prétoire et qu'il y passe de moins en moins, puisque les scènes de prétoire, il n'y en a pas bézef dans le run de Denis O'Neill, parcourt un peu le globe. Hein. Enfin, il est un peu à tire-larigot. Et notamment, il néglige son ancienne petite amie, Ivor Glenn, qui va finir par se suicider. Et ce qui va, amener deux des épisodes les plus glauques de toute la série, ce qui n'est pas peu dire, hein, étant donné que Daredevil, ce n'est pas non plus la série la plus souriante de l'univers Marvel. Mais ça va aussi commencer à ronger Matt Murdock, une situation un peu morale et psychologique qui va ne faire que s'aggraver, en plus des ennuis financiers donc, de Nelson et Murdock. Sa relation avec Glory va en prendre un coup. Sa relation aussi avec Foggy, de toute façon, bat de l'aile depuis pas mal d'épisodes. Et c'est ce qui va nous amener au prélude de Born Again, qui est un épisode qui m'a l'air complètement rafistolé, dans lequel le gladiateur revient. Donc le gladiateur, c'est Melvin Potter, un ancien super-vilain qui s'est plus ou moins racheté, et là, qui est ramené du mauvais côté par des gangsters qui ont capturé sa fiancée. Et voilà, cet épisode, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Matt Murdock, juste avant donc que Miller et Mazzucchelli ne lui fassent subir peut-être sa pire période, avec Born Again, qui seront les épisodes qu'on verra par la suite. Donc, cette période-là, elle est composée de mini-récits, on va dire des récits en deux parties, et beaucoup d'épisodes en une seule partie. Mais par contre, on voit vraiment le fil rouge de la dégradation du bureau d'avocat de Nelson et Murdoch, et surtout la dégradation mentale de Matt Murdock, qui va vraiment... qui va petit à petit vriller, quoi. Voilà.
Ouais, clairement, on pose les bases de ce qui va être Born Again, ce qui va être une des plus grosses sagas de l'histoire de Marvel, je pense, une des masterpieces hein, de l'époque, qui a sûrement été le plus réédité, le plus le plus cité en exemple. Y a déjà toutes les germes qui sont plantées tout au long de ce run de Denis O'Neill. Mais évidemment, la grande question. Hein, que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on l'a découvert. Mon bon Jérôme, par exemple, où t'as trouvé, où t'as découvert Daredevil, toi? Du moins cette saga.
Et je pense à l'époque, comme tout le monde, c'était dans Strange, puisque ça apparaissait Daredevil, c'était le héros de Strange, donc tous ces épisodes-là, une partie de ces épisodes-là donc étaient dans Strange. Qui, je pense que mon avis, c'est déjà un peu à cette période où les éditeurs français devaient se creuser la tête pour continuer à publier. Que Monstrange nous a proposé beaucoup de choses, mais c'est vrai que devait déjà remonter les épisodes parce que c'était pas le même nombre de pages. Et puis avec Daredevil, ils avaient encore cette peur de la censure, cette peur de ne plus pouvoir être publié, et donc. Sur cette période-là, pour après l'avoir redécouvert en VO, c'est vraiment assez incroyable. Déjà, beaucoup d'épisodes n'ont pas été publiés. Toute la partie Mikassine, en fait, et on la voit en filigrane. Et encore, je crois qu'il y a même des épisodes où il apparaît, où il apparaît en histoire annexe, dont les pages annexes de cette histoire sont enlevées pour se concentrer que sur le récit principal.
Ouais.
Donc déjà, ouais, c'était, ça devait être déjà compliqué pour eux. Et malgré ça, eh ben, tu te prends quand même une claque. Je pense, parce qu'il y a une grande qualité dans l'écriture en fait, des histoires bouclées, que ce soit celle de O'Neill ou celle de ceux qui vont faire l'intérim, comme Harlan Ellison, par exemple. Et puis, je pense aussi que le deuxième point qui fait que cette période reste quand même marquante, c'est l'arrivée de David Mazzucchelli, qui est je pense que c'est exactement la même claque que quand Frank Miller est arrivé sur Daredevil, quoi.
Ouais.
Style différent, ouais, ouais, mais avec une puissance tout aussi forte, et du coup tu te dis que c'est pas si déconnant de ça que derrière les deux vont s'associer, quoi. Et juste pour terminer, c'est aussi une période que je trouve toujours incroyable, parce que encore aujourd'hui je crois qu'elle est republiée en VO, mais vraiment il n'y a pas tout. Et en France, je crois pas qu'ils y sont encore. Donc du coup, c'est vraiment une période que moi j'aime beaucoup, et aussi qui est peu connue encore aujourd'hui, du fait de sa non, et pourtant qui pour moi reste quand même un marqueur. Tu vois, quand tu discutes par exemple avec les gens, si quelqu'un me parle de cette période-là de O'Neill, bah tu vois, moi ça me dresse l'oreille, parce que je me dis putain, ouais, ça c'est quand même quelqu'un qui va, où il y a les souvenirs, toi, ou qui va chercher. C'est vraiment une chouette période, je trouve. En tout cas, dans Strange. Malgré tous ces petits couacs qu'ils avaient, quoi. C'est limite.
Ouais, ouais, ouais. C'est une période, une série quelque peu maudite, presque, pour les lecteurs français, puisque effectivement, comme tu l'as expliqué, il manquait un bon paquet. Alors, je sais pas. C'est la censure qui devait jouer. C'est vrai que l'histoire de Mikasine est quand même un petit peu...
Je pense qu'il y a la censure.
Bien glauque.
Ouais, je pense qu'il y a la censure, et je pense qu'il y a peut-être aussi l'envie de rattraper le...
Ouais, et peut-être de passer à 1000 heures le plus rapidement possible.
Peut-être. Tu sais, à cette période-là, en plus, les séries n'étaient pas forcément toutes synchronisées. T'avais d'énormes retards encore. Hein. Donc peut-être qu'il y avait ça. Cela dit... pour arriver vite à 1000 heures, mais de mémoire, je crois que le Born Again, il y a quoi ? Ils ont publié 3 épisodes, dont le 3e était un montage.
Ils ont dû arrêter, oui.
Enfin, c'était assez compliqué, quoi.
Ils ont dû se gratter la tête un petit peu sur Daredevil à l'époque pour l'édition.
Ouais.
Mais ouais.
C'est clairement une série où, quand tu vois les numéros en VO, les pages sont retouchées, les intrigues sont retouchées, les dialogues sont retouchés. C'est vraiment... ouais, il y a vraiment, pour le coup, il y a vraiment un, c'est pas uniquement comme pour Alpha Flight où tu peux avoir à la même époque, donc Alpha Flight de John Byrne, où tu peux avoir des pages qui sont enlevées, même si il y a eu quelques épisodes où ils ont un peu pareil joué au Rummy Club avec, mais là la période O'Neill sur Daredevil, c'est vraiment éclaté façon puzzle, hein. Il y a vraiment des ils ont gardé quand même les meilleurs passages, je trouve, les meilleurs épisodes. On en reparlera, mais je suis vraiment, moi, pas super client de tout le passage Mikasine, mais voilà, c'est uniquement sur... Pour moi, c'est uniquement sur les dessins que ça se joue, parce que Mazzucchelli arrive et que on voit la naissance d'un auteur, mais c'est vraiment pas le meilleur boulot qui est fait O'Neill.
Alors il y a quand même un personnage de Daredevil qui est bien posé, un peu une version définitive, je trouve, moi, de Daredevil. Si tu veux démarrer une série, faut je pense traiter le personnage un peu de cette manière, même s'il est clairement déjà bien perturbé par le décès d'Electra, et puis toute la première partie, ça va être sa quête de vengeance vers le Bullseye. Mais d'abord il y a quelques épisodes un petit peu série noire dessinés par Klaus Janson qui sont, je trouve, plutôt cool, qui rappellent un peu son travail sur Batman ou des choses comme ça, avec des épisodes assez... Voilà, on a un épisode ou en deux épisodes à tout casser. Il y a un caméo de Wolverine aussi qui est bien cool. J'aurais bien aimé voir Denis O'Neill sur Wolverine, tiens, pour le coup. Ça aurait sûrement donné des très bons épisodes. Bah avec Klaus Janson, c'est un peu... voilà, lui, c'est un très grand ancreur. On reconnaît sa touche vraiment à chaque épisode. Son passage en tant que dessinateur régulier, c'était pas une réussite complète non plus. Il y a quand même, on sent qu'il a un peu de mal à tenir les deadlines, etc. Mais c'est, mais bon, ça crée quand même une bonne ambiance à ces histoires là qui sont qu'on retrouvera pas du coup par la suite. Une fois que c'est William Johnson qui arrive au dessin, parce que ça tranche complètement le style.
Ouais.
Oui.
Ouais, ouais.
Ça tranche. En même temps, moi j'aime bien. J'aime bien cette période, enfin Johnson, moi sur la partie japonaise, moi le voyage au Japon, l'espèce de lien qui crée entre le tireur et Daredevil, tu vois, ils arrivent un peu à se dire putain, en fait, il y a une espèce de lien psychique qui se crée que je trouve pas mal, et puis j'aime beaucoup parce que ça pose vraiment Daredevil comme un, là on est un peu au top du Daredevil super-héros, tu vois, le vrai guerrier, le vrai samouraï, il y a plein de passages très un peu zen. Enfin, il se met même quasiment une tenue de, alors pas une armure de samouraï, mais déjà il s'habille avec des habits un peu classiques traditionnels japonais. Il y a toute cette bataille avec le tremblement de terre. Et il y a cette rencontre là. Et le tireur, je trouve, est toujours aussi bien, quoi. Le mec, qui est un enfoiré du jour à chaque fois, quoi. L'autre, on lui propose un marché, il n'a plus qu'à après à payer sa dette et il s'en fout complètement. Enfin,
il prend pas du tout au sérieux les japonais. Ouais.
Et
lui offrir le squelette.
C'est ça. Et j'aime beaucoup plus son retour à New York avec le caïd. Je trouve que O'Neill, il retrouve aussi, il arrive à retrouver aussi ses petites touches d'humour que Miller avait quand Daredevil vient chercher des informations, se confronte un peu à la bague locale. C'est là où il arrive dans le bar en disant, écoutez, j'ai franchement pas le temps, je vous donne l'argent, vous me donnez les infos, et t'as la tenancière qui fait, ça fait plaisir de voir pour une fois que rien ne s'est cassé. J'aime beaucoup ces petits moments-là, ça me rappelle un peu l'épisode que Miller avait fait où c'était que du point de vue de Foggy Nelson. Voilà, toute cette période-là, Japon, je trouve que c'est comme s'il poussait Matt un peu au Daredevil vraiment sans peur, sans reproche et sans problème, tu vois. Mais voilà, et c'est pour mieux le faire après, descendre peu à peu, quoi. C'est ça que j'apprécie dans cette partie-là.
Ouais, on a l'impression un peu que... Enfin, moi, je trouve que dans tout ce qu'écrit O'Neill sur Daredevil, il prend beaucoup exemple sur le spirit de Will Eisner. Et dans le spirit de Will Eisner, il y a beaucoup d'épisodes où il envoyait le spirit dans les îles, où il partait de temps en temps de Central City. Et la façon dont il arrive un peu dans les intrigues, c'est que le spirit arrive un peu comme un chien dans un jeu de qui. C'est-à-dire que à chaque fois, les gangsters qui poursuivent sont vraiment en train de préparer un gros plan. Ils sont toujours sur une affaire qui est assez énorme. Et lui, vraiment, c'est le grain de sable dans l'engrenage, et la façon de montrer le personnage de Matt et de Daredevil dans ses premiers épisodes, qui est vraiment entre la décontraction et la mission. On retrouve beaucoup du spirit, et on le retrouve par moment, après par intermittence dans les épisodes qui suivront. Effectivement, ce lien avec la pègre où il est connu de la pègre et comment dire, c'est une terreur, mais sans avoir à tabasser qui que ce soit, quoi. C'est juste
il a déjà fait ses preuves et
voilà.
Il est respecté par le milieu de la pègre, et effectivement personne n'ira s'y frotter, quoi.
Ouais.
En fait.
Et c'est après que recommence sa guerre avec le caïd, et le fait que le caïd que les affaires sérieuses prennent de plus en plus de place, et en fait on s'aperçoit que le côté un peu bariolé et un peu énorme des super vilains a du mal à cacher en fait la montée d'une espèce de crime qui est beaucoup plus réaliste entre guillemets en fait du crime qui est plutôt banal, du crime qui est plutôt anodin et qui va prendre de plus en plus de place jusqu'à arriver à Born Again où t'as pas de super vilain dans Born Again, c'est vraiment la criminalité lambda et on le voit petit à petit monter dans les épisodes de O'Neill par exemple. Il y a l'épisode, je crois que c'est l'épisode avec le Beyonder qui commence par un petit truand qui est dans la rue et qui vient avec un couteau pour prendre l'appareil photo de Glory. Et il lui pique l'appareil photo comme ça en pleine rue, c'est hyper brutal, c'est pas il y a rien de fun ou de grandiloquent quoi. Tandis que les super vilains, ils commencent à être de plus en plus ridicules. Du type le pitre, tu vois, le pitre, clairement, l'épisode, il n'a pas du tout envie de faire de casse, il a juste envie de jouer à la télé dans une représentation de Cyrano de Bergerac. Le vautour, c'est complètement devenu un raté qui fait les tombes, quoi.
C'est un charognard, quoi.
C'est vraiment devenu un charognard.
Sont revenus au truc de charognard, quoi.
Ouais. Et les super vilains, en fait, ils débarrassent petit à petit le plancher. Et effectivement, ce côté de la pègre, un peu de ce que tu disais, Lord, c'est-à-dire le côté un peu rigolo de la relation entre Daredevil et la pègre, petit à petit, ça se. En fait, les tensions se radicalisent et il y a de moins en moins quelque chose de pittoresque en fait dans la représentation de la pègre qui va prendre quand même une toute autre tournure avec Born Again et puis après avec Nocenti et John Romita Jr. où on sera encore sur complètement une autre représentation. Donc on est un peu sur effectivement cette façon de faire du polar un peu issu du polar 70s des séries télé avec à la Starsky Hutch avec les indiques avec le côté c'est dangereux mais en même temps c'est dangereux mais c'est l'aventure et c'est petit à petit ça va devenir plutôt c'est dangereux quoi. C'est dangereux point. C'est dangereux et c'est glauque. On va commencer à avoir
et c'est t'as qu'à voir pour continuer sur cette histoire des super vilains, on arrive même à un épisode alors, qui n'est pas scénarisé par O'Neill, je crois que c'est Priest qui l'écrit, avec ce mec qui a trouvé une armure et qui va se venger ou du truc ou veut de l'argent, et qu'au final on se rend compte que l'armure s'est nourrie de lui et n'est plus qu'un être, enfin, n'est plus rien. Oui. C'est-à-dire que même le super vilain s'est fait déjà bouffer, enfin, n'existe déjà même plus. Quoi. Et à côté de ça, alors je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas moi à l'époque quand j'avais lu, c'est peut-être une de mes premières fois que je vois vraiment de la politique introduite dans du récit super-héroïque, puisqu'on a l'IRA, on a tout ce qui tourne autour de l'IRA avec le personnage donc Gloriana. C'est ça, hein, c'est Gloriana.
Glory.
Dont on apprend en fait qu'elle a des liens avec le mouvement irlandais et qui va devenir une victime d'un mec qui doit la tuer justement un tueur à sa solde et tout ça quoi et ça pour le coup c'est pareil on revient sur un truc beaucoup plus puissant menaçant si dans cet épisode il le mélange avec ce mec qui arrive à rendre aveugle les gens tout autour de lui.
Parce qu'en plus, le Gaël, donc l'espèce de tueur d'assassin qui était autrefois dans l'IRA et qui a complètement vrillé jusqu'à en fait prendre du plaisir en fait à assassiner les gens, c'est tu sens même qu'il y a un plaisir sexuel en fait.
Totalement.
Puisqu'il étrangle les gens et en fait la description que fait O'Neill de ces meurtres, tu sens que ça lui fait plaisir, qu'il a C'est vraiment pour le coup un nouveau type de maniaque. Comme ça pointait un peu chez Miller aussi, de temps en temps, puisqu'il y avait l'espèce de double maléfique du gladiateur, qui était un tueur SM, et on apprenait que c'était le mec qui avait agressé Becky, la secrétaire handicapée qui est en chaise roulante là, de Nelson et Murdoch. Il y avait déjà ces implications, mais là, ça prend vraiment une tournure effectivement plus.
Ouais.
Déjà, parce qu'il revient. Il revient, le Gaël, on le voit deux fois. Et puis, ouais, ça fait partie en fait de la de toute la menace dans laquelle Daredevil va petit à petit évoluer.
Ouais, ouais. Puis tu sens qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit repenti, quoi, le Gaël. Tu sens que c'est.
Non, ouais,
c'est
ouais.
Irrémédiable. Sa folie, que, contrairement, bah, par exemple, au personnage du Pitre, qui est là ouais. Juste uniquement pour sa rédemption, quoi. Le super vilain, effectivement, costumé, masqué, gimmiqué, voilà, c'est la fin de cette période et on est plus sur les. Effectivement, sur le crime. D'ailleurs, il y a à aucun moment finalement le Caïd sera inquiété de tous les agissements de Daredevil tout au long de la.
Non.
Tout au long de la saga. Ouais. Même quand il va vers la vengeance, vers Bullseye,
en plus,
le Caïd s'arrange pour que ça lui pose pas de problème en fait.
Ouais, en plus, il y a ce début de Dark qui est assez bizarre. Ouais. Avec comment le policier qui a monté toute une escouade d'anciens flics qui abattent en fait des meurtriers. C'est,
ouais.
Il y a une espèce de
et qui ça se conclut par un accord entre Daredevil et les flics parce qu'ils ont ouais. Découvert son identité.
Ouais. Et qui est finalement qui est passé à la trappe à partir du numéro 200 parce que t'apprends que le personnage avait une tumeur et il est mort de sa tumeur. Parce qu'en plus, il découvre l'identité de Daredevil. Mais tu avais ce côté un peu la nuit des juges, Magnum Force,
ouais, là,
qui était déjà présent au début du run de Denis O'Neill. Quoi.
Très urbain. Mais aussi, ouais, du coup, très exotique avec le voyage au Japon. Quoi. C'est,
ouais,
ça
ouais,
arrive c'est... à jouer sur les deux tableaux. Hein. C'est quand même fortiche.
Et c'est en ça que tu dis après le. La période Mikasine, je la trouve assez assez étrange en fait. Je suis vachement quand je l'ai découverte, je me suis dit c'est quand même assez étrange de voir ces espèces de Tarzan en fait. Tu vois, c'est une espèce de
ouais. Bah, tu sens qu'il a voulu faire autre chose, je pense. Hein,
et
ce qu'a fait Miller.
Et tu vois, en même temps, il arrive à faire. Alors, ce qui est pas mal, c'est le fait que il l'étire sur la longueur, mais entrecoupé d'autres petites intrigues ou tie-in, ce qui fait que finalement ça devient plus agréable à lire. Parce que si tu concentres que cette histoire, tu te dis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette espèce de mec qui veut conquérir New York et qui en même temps est complètement dans des rites, enfin complètement dans ses rites de sa déesse, enfin tout ça. Et puis il y a le lien, il y a le on va dire le partenariat entre le Caïd et Daredevil qui se fait, mais tu sens que c'est pas ça va pas c'est travaillé sans être je trouve sans être
sans
trop
être
travaillé
abouti,
quoi ouais sans être abouti exactement. Il y a vraiment là pour le coup cette période là un peu flottement et en fait ce qui fait que tu lis c'est que Mazzucchelli arrive à ce moment là et ce que je trouve assez fort, c'est de voir comment peu à peu il commence à peaufiner le style qui fera sa grandeur après. Quoi.
Ouais, et puis il y avait une idée qui était intéressante dans Mikasine, c'était la corruption de la civilisation. Parce que petit à petit, on voit que en fait, il prend plaisir à la nourriture. Nourriture actuelle. Et en fait, c'est ce qui.
Le confort, ce qui va causer sa perte.
C'est ce qui va causer sa perte. Sauf que la corruption, comme le personnage n'est déjà pas super agréable à la base, tu ne peux pas avoir la... Il y a quelque chose d'intéressant à ne pas avoir le cliché du bon sauvage qui devient mauvais, parce que c'est vraiment un enfoiré dès le début. Mais il y a un truc qui ne fonctionne pas, en plus de véhiculer des clichés racistes, même si c'est à la... comment dire... Il essaie de les détourner parce que c'est des blancs, mais voilà, il y a quelque chose. J'ai l'impression que c'est un puzzle où il manque des pièces, en fait.
C'est exactement ça. Parce que là, le truc qui fonctionne pas mal, mais qui va pas assez loin ou paraît pas abouti, c'est qu'en fait, là où je trouve ça intéressant, c'est quand c'est lui qui est l'élément corrupteur ouais. de mmh. là où il va. Quand tu vois comment peu à peu Foggy justement tombe dans cette corruption jusqu'à se parjurer lui-même via sa femme. Ou tu as ce professeur d'université qui pour lui ce mec est son billet d'entrée à la célébrité et qui en fait complètement se fait embobiner. Enfin, en devient carrément c'est lui-même qui est le gogo de l'histoire quoi. Voilà l'esclave du truc. Ça c'est vraiment fort parce que c'est comme si en fait tu avais cette arrogance du blanc occidental face à ces êtres d'une autre civilisation considérés comme inférieurs, mais qui en fait se font avoir à ce petit jeu. Mais ça va pas assez loin, notamment quand tu vois arriver l'espèce de sorcier de la tribu qui dit jamais rien. Tu comprends rien en fait. Je vois pas l'intérêt de ce mec-là quoi.
En fait, je pense que Denis O'Neill il veut faire un parallèle entre la loi de la jungle et le libéralisme, l'ultralibéralisme qui prend d'assaut les États-Unis à l'époque. C'est-à-dire que les années de la cupidité, lui, voilà, on s'assoit sur les règles et sur comment dire la coopération. À l'intérieur d'un État, à l'intérieur d'une nation, la coopération simplement entre les humains. Donc ça devient la loi de la jungle. Et du coup, il met un vrai, un vrai personnage qui a été élevé avec cette loi de la jungle, mais qui est le mal alpha. Et donc du coup, qui va l'emporter ? Est-ce que ça va être les prédateurs de la jungle naturelle, on va dire, c'est-à-dire Mikasine et sa tribu, ou les prédateurs de la jungle de béton ? Notamment le Caïd et Daredevil. Ça, c'est intéressant. Sauf que Mikasine, déjà, il a un look de merde. On dirait. il rappelle quand même Kraven, ce qui est toujours.
Ah, maman.
Kraven et Khazar, un espèce de mélange.
Ouais.
Et on garde le cri, quoi.
Ouais, c'est jamais le look qui est réussi. Les séquences avec Déborah, avec la femme de Foggy, c'est vraiment.
C'est très très dur, ça. Hein. C'est très très dur tout ce qui arrive à Foggy.
Ouais.
Le personnage effectivement de sa femme qui tombe sous le charme du macho de la jungle, qui arrive quand même de qui lui en arrive de dur, hein, parce que.
Ouais, elle se fait traiter comme une serpillère, quoi. C'est...
Ah, oui, et puis. Je crois qu'elle passe dans une tournante hein, quand même à un moment donné, hein, mais entre les cases quoi. Mais voilà, je pense qu'elle prend le retour de bâton quand même. Ça donne pas une image de la femme très reluisante. Hein. Ça,
non ouais.
Et Foggy, il en prend pour son compte. C'est ça que c'est.
Foggy, t'as vraiment envie que t'as vraiment envie de lui coller des claques quoi. Et c'est marrant parce que le dernier épisode là, qui est écrit par Miller en fait, sur la base du script de O'Neill, donc ils n'ont pas bossé ensemble hein, sur le dernier épisode, l'épisode avec le retour du gladiateur là, qui est juste avant le Born Again. Je pense que... Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Denis O'Neill a claqué la porte de Marvel, il n'en pouvait plus là, de bosser pour Shooter, et il a retrouvé du boulot chez DC, où il va s'occuper de Batman, on en a déjà parlé. Mais Miller, donc lui, il a ce numéro qui réécrit de façon à en faire vraiment un prologue à Born Again. Et le changement, c'est peut-être un des plus gros changements, comme il y a eu, on avait déjà parlé du Spider-Man de Romita, où dans un épisode, Peter Parker, ça devient le meilleur ami de Harry Osborn. là, il y a Foggy en deux pages dans le dit ah ouais non mais en fait j'ai fait que des conneries ces derniers mois, j'ai dit des choses à propos parce que l'épisode précédent tu les vois s'engueuler avec Matt, claquer la porte parce que le cabinet de Nelson et Murdoch ferme et
ils se renvoient la faute l'un à l'autre quoi.
Et ils se renvoient la faute l'un à l'autre, ils sont et l'épisode d'après c'est Foggy qui discute avec Glory et qui lui dit non, mais en fait, j'étais énervé, j'ai tendance à dire des choses qui dépassent ma pensée, mais c'est un mec super, Matt, il va pas bien en ce moment, mais je sais pourquoi. Et Miller ramène une idée qu'il a, qui est que Foggy connaît le secret de Matt, mais il lui fait croire et qui est aussi sa théorie sur Gordon avec Batman, où Gordon. C'est que Bruce Wayne c'est Batman, mais il le dit pas pour que pour que l'autre garde en fait son aura en fait, voilà, et garde son mojo. Voilà, pour lui faire plaisir. qui est pas du tout, en fait, qui est pas du tout ce que tu lis entre les lignes chez O'Neill, quoi, où tu vois.
Ouais, ouais. Foggy, ouais, on sent que O'Neill, il aime pas trop Foggy, hein, je pense.
Ouais.
Vu en fait, ce qu'il lui fait subir.
Il le traîne dans la boue parce qu'il peut pas traîner dans la boue, Matt. Parce que Matt, il s'en est déjà pris tellement plein la tête avec Miller dans les épisodes avant qu'il reprenne la série. Il se dit, bon, bah voilà, je peux pas non plus refaire à chaque fois, tu vois, Matt qui va pleurer pour Elektra, quoi. C'est, il avait déjà tellement mangé dans les épisodes précédents qu'il a décidé de mettre le curseur sur Foggy, quoi. C'est le bon Foggy.
C'est Foggy qui va s'en prendre cette fois-ci.
Ouais.
Et Heather. Et il arrive carrément à le faire pousser au suicide, quasiment. D'ailleurs, ce qu'il évitera à Foggy, mais qu'il fera faire à Heather, quoi, tu vois.
Et en plus, il lui donne une moustache.
Ah ouais, non, mais ça, là... Foggy.
Et avec notamment la case où Foggy demande à Matt « Comment tu trouves ma moustache ?» Et il dit « Ma merde, tu peux pas, mais tu ça, peux pas voir, c'est vrai.
» Il l'utilise beaucoup.
Quand même très, très court.
Non, mais il utilise beaucoup ce gag et c'est vrai que ça marche. C'est drôle une fois, mais c'est.
Alors, j'ai l'impression que c'est quand même un des runs où on nous rappelle quand même le plus souvent que Matt Murdock est aveugle, que Daredevil est aveugle et que ça lui pose problème dans nombre de combats avec ses adversaires. C'est quelque chose qu'on retrouve moins par la suite, je trouve, chez les autres scénaristes.
T'as un épisode où il est bloqué par ça, justement, avec des photos, avec le fait de retrouver le... Bah, c'est pas avec le Gaël, d'ailleurs.
Bah, c'est le Gaël, Il y a un indice.
L'indice
est dans les photos. Ouais. Et en fait, il y a trois cases où tu le vois à son bureau et devant les photos. Et puis, il s'énerve. Il dit, mais en fait, ça sert à rien. Je vois pas. Je sais pas ce que c'est.
Sauf que, et puis
il appelle la secrétaire pour lui demander bon qu'est-ce qu'il y a sur ces photos, qu'est-ce que vous voyez, alors que l'indice est en réalité sur à l'intérieur de l'appareil. Effectivement, c'est peut-être O'Neill qui se souvient le plus que effectivement Daredevil voit rien, sauf dans un épisode, l'épisode avec le pitre, où à un moment donné il court dans le studio Daredevil et il passe devant les gardes qui sont en train de regarder, donc les gardes de sécurité qui sont en train de regarder l'émission là où il passe Cyrano de Bergerac et où le pitre est en train de jouer, et ils ont un sourire aux lèvres, ils disent les gardes ont l'air de vraiment, à leur visage on voit que c'est son sens radar, il marche bien parce qu'il arrive vraiment à voir
les sourires.
Il est très 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 fort, il est très très bon. Après, ce que je voulais dire, par rapport à... Après, sur Foggy, moi, j'aime bien le dernier épisode de O'Neill, justement, avec le vautour. Moi, j'aime bien le vautour, notamment dans ce qu'il a à se cacher sur l'immeuble et limite à vouloir pousser au suicide Foggy. Pour le coup, ce passage... Moi, j'aime bien ce passage-là, justement, où Foggy confronte Murdock à son laisser-aller, à tout ça. Enfin, ou même l'épisode avec Heather Glenn... quand il lui rebalance dans la gueule, quoi, le fait qu'il est peut-être pas la cause du suicide, mais en tout cas il a pas non plus fait pour qu'elle essaie de se sentir mieux. Et moi j'aime bien ce Foggy là, je l'aime bien. J'aime pas trop le Foggy oh là là, ma femme, c'est parce que j'étais un gros et tout ça, c'est ma femme qui m'a fait faire beau, enfin tu vois le
ça manque un peu de subtilité, ça, hein.
Parce que, enfin, moi je trouve que Foggy, c'est un peu le marqueur. Si tu arrives à bien écrire Foggy, tu t'en sors pour tout sur Daredevil, quoi. C'est un personnage, j'aime pas quand il est trop ridicule. Après, il faut pas le faire non plus le mec hyper sérieux, le hyper balèze. Et Miller trouvait le bon truc, tu vois.
Ouais, clairement. Ouais.
Mais tu vois bien, par exemple.
C'est Born Again, les apparitions de Foggy, elles sont parfaites, quoi.
Elles sont géniales. Vraiment, là,
il est empoté, mais juste ce qu'il faut. Mais ils expliquent quand même que c'est un avocat qui est brillant. C'est C'est, il arrive. Et puis, quelqu'un qui a quand même une fibre morale, c'est assez intéressant, en fait, de façon.
Oui, parce qu'il n'est pas le meilleur ami de Murdoch aussi pour rien, comme tu dis. C'est justement cette fibre morale qui fait qu'eux deux travaillent ensemble. Quoi. C'est...
Oui, puis il a besoin de toute façon, il a besoin de les rabibocher, parce que dans le premier épisode, il y a quand même une des plus belles scènes, qui est quand ils se prennent dans les bras après le procès où Matt a été radié du barreau. Et voilà, t'as juste une case où tu les vois se prendre dans les bras et qui sera reprise quelques années plus tard par Lee Weeks dans le dernier épisode de No Senti
où il se retrouve.
Où là c'est Matt qui retrouve Foggy qui vient de se faire plaquer par Glory, quoi. La boucle est bâclée.
Ouais, on sent qu'O'Neill, il respecte beaucoup moins Foggy. Hein.
Ouais,
parce qu'il avait dans l'idée de lui faire passer ses pires moments. Alors, je sais pas s'il y avait un but au fond pour un retour de Foggy.
Je me demande si le relook de, enfin le pas le relook, mais le changement d'objectif là du vautour faisait pas partie de ça, quoi, que on devait pas aller vers quelque chose de plus glauque, parce que le vautour, très clairement, j'ai pas compris ce qu'il cherchait. Hein. À part dans l'épisode, tu sens que c'est un peu coupé avant que ça commence, parce que il déterre des tombes, il se tient au-dessus des bureaux de Nelson et Murdoch parce que la mort poursuit Nelson et Murdoch, mais j'ai l'impression que ça devait traîner un peu plus longtemps, et puis que comme il est parti,
sens qu'il y a
En lien avec Heather Glenn, tu sais, par rapport aussi au concile.
Oui, et puis il y a le personnage de l'Indien, la Black Crow,
qu'on verra jamais. Parlé,
mais qu'on verra jamais, parce que c'était une storyline que comment dire, le combat entre le vautour et Daredevil est observé par un pigeon, là, un oiseau qui devient un humain, qui est Black Crow, qu'on voit dans les épisodes de Captain America de Jean-Marc de Matteis. Qui est peut-être le personnage le plus malchanceux du Marvel Universe, puisqu'il devait aussi réapparaître dans les Captain America Crotte de Matteis, dans la storyline qu'il avait prévue, et que, pareil, il a dû abandonner parce qu'il s'est fait virer de Captain America. Donc, du coup...
N'utilisez pas Black Crow si vous scénarisez une série Marvel. Sinon, c'est que la fin est proche.
Mais
je me disais là qu'on le revoyait quelque part, celui-là, je me souvenais plus où.
Oui.
C'est chez De Matteis. C'est vrai que par contre, dans Daredevil, on n'entend plus parler de ce personnage-là.
Il est dans cet épisode et puis.
Puis c'est tout, on sent que voilà, toutes les intrigues qu'ils voulaient lancer, elles ont été un peu tuées dans l'œuf pour préparer l'arrivée du retour de Miller avec Matt Kelly. Alors, pour en revenir au dessinateur William Johnson, là, moi je trouve qu'il se débrouille bien dans les scènes d'action, dans les scènes de combat au corps à corps. Alors, bon, c'est aussi une force de Denis O'Neill de les scénariser, mais il a vraiment cet atout là de dessiner des bonnes scènes d'action, notamment dans le numéro 200, là, qui est quand même un excellent numéro, là, le règlement de compte avec le retour du tireur. Il fait quand même son petit effet. C'est dommage qu'il ait disparu un petit peu des radars, ce dessinateur-là. Je pense qu'avec le temps, il aurait peut-être... Il a bossé un peu sur Master of Kung Fu, je crois.
Ouais. Je crois qu'il a été embauché parce que justement, je crois qu'il pratiquait les arts martiaux ou quelque chose comme ça. Hein. Je crois que j'avais lu ça. Et moi, j'aime bien l'épisode avec l'Hydra là, qui capture... qui capture Black Widow. Je trouve que c'est celui qui dessine le mieux.
Tu sens qu'il progresse quand même.
Ouais. Est vraiment bien, justement, avec ce que tu dis, les scènes d'action qui sont orchestrées par O'Neill, parce qu'il y a une scène d'action dans un bâtiment en construction, là, qui est vraiment assez cool, là, où il joue au jeu de la chat de la souris avec les membres d'Hydra. Et il y a, quand il va chercher dans l'entrepôt la veuve, qui est accroché au... la veuve noire est accrochée au plafond, et en fait il y a des détecteurs de mouvement, il y a une bombe qui est placée, toute la séquence est super
Là aussi ça joue sur le sens radar et les
Ouais. Elle est bâillonnée, elle ne peut pas prévenir Daredevil qui a le piège. Et en fait, il va s'en douter juste avec les battements de cœur de Black Widow. Je suis content qu'il ait fait revenir Black Widow aussi. Hein,
Black Widow revient plusieurs fois.
Ouais.
Tu sens qu'il y a une affection de O'Neill pour le personnage. Mmh. Et là encore, ça ressemble à ce que faisait Will Eisner avec le Spirit. Parce qu'il utilise un peu comme Eisner utilisait Kyle Stratton, qui était une espionne qui bossait pour le compte de Scotland Yard, du MI6. Je ne sais plus bien le. Elle bossait pour les Anglais. Et elle, pareil, elle est de temps en temps dans les aventures du Spirit. Et ils ont une relation qui est. Qui est romantique et en même temps qui est un peu concurrentiel, et tu sens un petit peu ça avec la veuve. J'aime bien l'épisode, c'est quel épisode où ils se battent dans un marais, ils se battent dans le bayou, et en fait c'est la veuve qui lui dit qu'elle essayait elle savait très bien que c'était lui, mais qu'elle essayait de voir s'il était encore OP parce que il n'était plus en très grande forme psychologique depuis quelques temps. Il avait besoin d'être sûr qu'il était vraiment sur le coup, sur l'affaire.
Avec l'accident d'avion et puis le gaz qui se répand.
Pour rappeler aussi la fin des super vilains, c'est que Mr. Fear, on l'a pas, mais on a le gaz de Mr. Fear. On utilise les armes des super vilains, mais pour faire des saloperies, quoi. Il n'y a pas un vilain grandiloquent. Il y a un très bon épisode aussi en parlant de machination, qui est le retour du Gaël, dans lequel il y a le Cossack qui est un appareil qui brouille la vue en fait des gens environnants, et donc tout le monde devient aveugle et la veuve devient aveugle. Non, c'est assez cool ces épisodes. D'autant qu'on voit la progression de Mazzucchelli. Vraiment, l'épisode du saut qualitatif, c'est l'épisode avec le Two Gun Kid. Vraiment excellent.
Il est super.
La partie western. Je ne sais pas s'il n'utilisait pas le papier le même que John Byrne pour faire des.
Je crois. Du Oshed avec parce qu'en fait c'est un épisode, donc pour expliquer, c'est un épisode où Matt va aider des natifs américains à retrouver un papier qui leur donne l'accès à la propriété d'un terrain là en Arizona, je crois. Et en parallèle il y a un flashback qui est dessiné effectivement, je crois, en du Oshed avec des tons sépia dans les couleurs. Qui est une aventure du Two Gun Kid, donc un cow-boy masqué dont l'identité secrète se trouve être un avocat. Et c'est un avocat roux. O'Neill expliquait que c'était en voyant que il y avait deux avocats roux, Two Gun Kid et Daredevil, et il s'est dit on va les relier alors qu'ils sont à un siècle d'écart. C'est une affaire. Ça m'a fait penser un peu à comment ça s'appelle ce film de John Sayles là, qui est pas mal. Là,
Lone Star.
En parallèle une affaire qui se passe dans le passé, une affaire qui se passe dans le présent.
C'est un épisode mythique ça, hein, avec effectivement le dessin de Mazzucchelli qui explose, qui avait déjà fait. Qui nous avait déjà quand même bluffé dès le départ, en fait. C'est quand même rare de voir un mec de ce niveau arriver comme ça, direct, départ, poser les bases.
Je trouve qu'au début, il a déjà quelque chose de particulier. Je sais plus si au départ, il se fait ancrer ou si déjà il s'ancre lui-même. Parce que tu vois la différence quand quelqu'un ancre son travail, quand il s'ancre lui-même. Tu vois vraiment la différence c'est vraiment
le Two Gun Kid, c'est un des premiers où il s'ancre lui-même. Ancré lui-même sur la fin de la saga Mikasine qui est juste avant. Là où il est vraiment très fort aussi, c'est l'épisode avec les deux épisodes qui sont écrits par Harlan Ellison et Byron Cover, qui sont sur Daredevil, donc qui est le surtout le premier qui est dans une maison hantée.
Ouais, il y a la fameuse une maison piégée.
Ouais.
Et notamment la page mythique avec le flingue géant là et le.
Ouais, quand il est dans le canon. Moi, le truc qui m'avait foutu mal, c'était quand j'étais gosse, c'était la page où il est drogué, donc il a reçu une. Donc c'est l'épisode, Daredevil qui est attiré dans une maison par une gamine qui est en fait une gamine, c'est un robot explosif. Et une fois qu'il est dans la maison, en fait, il est piégé. Donc, il y a des pièges partout, en fait, dans toutes les pièces de la maison. Et en fait, on s'aperçoit que la maison appartient à une vieille dame qui est la mère d'un super vilain qui a combattu Daredevil. Donc, elle a piégé Daredevil pour se venger. Et à un moment donné, il se fait piquer par des flèches empoisonnées. Qui lui mettent des hallucinations, et il y a une page là qui est horrible, là où il a des hallucinations en fait sur à peu près tout, et à un moment donné tu le vois en cul de jatte en train de ramper. Ouais, j'ai trouvé ça tellement glauque, quoi. T'as des hallucinations où il est en train d'être brûlé, il revoit Elektra qui se fait assassiner. C'est deux épisodes assez fous, quoi.
Ils sont assez incroyables. Avec tous les pièges, les herses qui se retournent, et puis le décompte quand il va calculer que la maison va exploser, il doit sortir en passant par la cheminée. Enfin, c'est assez incroyable. C'est vrai que là, il est fort. Moi, il y a un truc que j'ai adoré chez Mazzucchelli, et je pense que c'est là où il s'approprie vraiment le personnage et la série. C'est dans la manière qu'il a de dessiner le costume de Daredevil. Je trouve qu'il a une manière de dessiner le costume comme personne d'autre a. J'aurais du mal à l'expliquer exactement, mais t'as plus l'impression de voir un costume assez classe, assez clean, et qui se porte facilement. Et là, t'as l'impression de voir une espèce de seconde peau sur lequel il joue beaucoup sur les ombres, encore plus qu'avant.
Ouais. Alors, mais tu sens la texture, quoi. C'est assez,
Et tu sens la texture. Et alors, moi, là où je trouve que c'est hyper fort, c'est dans les deux épisodes qu'on n'a pas trop cités, qui pour moi, c'est les meilleurs du Ron O'Neill, c'est la mort de Heather Glenn.
Et visuellement, ceux-là.
Voilà, et le voyage à Venise, où. Et notamment le voyage à Venise où il est obligé de se dessaper pour pouvoir se bander les mains, pour pouvoir continuer à frapper un mur pour sortir. Et en fait, c'est comme s'il s'enlève s'enlève une peau, enfin sa seconde peau, comme une espèce déjà de renaissance à ce moment-là. Il bande ses muscles au moment où on va l'attacher, il bande ses muscles exprès pour pouvoir après s'enlever. T'as toute la musculature, enfin vraiment il travaille ça. Moi je vais vraiment avoir du mal à l'expliquer, mais il y a quelque chose qui fait que il dessine vraiment pas comme n'importe qui le costume de Daredevil. Cette manière qu'il a de coller totalement à la peau. Il y a personne d'autre que moi qui.
Oh, mais tu sens qu'il maîtrise des tonnes de techniques de dessin en vérité, hein, parce que le.
Et oui, parce que tu vois quand il fait Batman. Passage... Ouais, tu vois, quand il fait Batman dans Year One, le costume de Batman, il est différent. C'est pas la même façon qu'il a le.
Ouais, pareil.
Sur Daredevil, il y a vraiment quelque chose, quoi.
Moi, je trouve que ça passe. Il revient à quelque chose qui est assez proche de Wallywood dans la façon de dessiner le costume, avec vraiment beaucoup d'emphase sur le noir, mettre beaucoup de plaques de noir. Il est très éloigné, je trouve, de ce que fait Miller, justement, ce qui est pas mal, puisque on s'écarte avec quelque chose de moins anguleux, qui était déjà un peu dans ce que faisait William Johnson, mais Mazzucchelli pousse ça. Il vient un peu entre, je trouve, Gene Colan et Wally Wood.
Il y a quand même pas mal de Gene Colan dans les mouvements, hein, dans le. Le côté aérien du personnage, le côté acrobatique, le côté.
Il y a Kim Demulder qui ancre deux épisodes. Tu vois clairement les influences de Gene Colan. Après, Kim Demulder, c'est un gros, gros fan de Gene Colan. Donc, du coup, je pense qu'il a amplifié ça, mais tu as quelque chose dans aussi dans les cheveux, la façon de dessiner
la peau, la barbe. Cheveux. Ouais, ouais, la barbe, tu sais, le truc un peu mal rasé, mal réveillé. Tu sens le mal-être, tu sens le mal-être quand il est dessine. Enfin, tu vois, je reviens à l'épisode de Heather, qui est un personnage qu'on ne voyait quasiment plus depuis un sacré moment.
Oui.
Depuis au moins 1000 heures, hein, comme ça, de mémoire. Et là, la première page, elle est complètement ratatinée, complètement bourrée sur le lit. Ouais. Enfin, elle fait peine à voir, quoi. C'est vraiment.
Ouais, et puis là, contrairement à ce qu'il fait à Foggy et à Debbie dans les épisodes de Mikasine, c'est dur, mais c'est bien fait.
Oui.
C'est-à-dire que la dégradation de Heather. Et
ouais, elle est logique avec le personnage, quoi.
Ouais, et puis c'est tout l'épisode est vraiment fin, quoi. Il est sur le fil. T'as déjà tout Born Again, parce que même dans la façon de mettre en couleur, là quand
on parle de Born Again, je pense à cet épisode en fait, mais
ouais,
il n'est pas du tout dans la saga en fait.
Ouais.
Ah, il pourrait être vraiment.
C'est vraiment le prélude parce que tu as des choses qu'il va reprendre, notamment le fait que tu ne vois pas les yeux de Matt quand il enlève le masque, qui sont complètement cachés. Tu as une page là où tu as. Il arrête un type qui a tué sa femme parce qu'ils sont engueulés, il a entendu une querelle domestique. Mmh. Il n'est pas intervenu parce qu'il allait chez Heather et après il retrouve le mec en pleine rue. Après qu'il a découvert le cadavre de sa femme. Et t'as le type, en fait, tire dans tous les sens. Et t'as, tu vois, quatre cases où, en fait, tu vois que le type tire dans rien. Mais il est, il est dessiné de quatre manières différentes. Il tire à gauche, à droite, devant lui et en haut. Et la façon dont c'est mis en couleur, c'est du rouge dans le fond et du jaune sur tout le mec. Donc, tu as quelque chose de très, très simple en fait, dans la mise en couleur qui va rééditer dans Born Again. Bizarrement, cet épisode-là n'a pas trop été censuré. Ils ont quand même gardé l'idée qu'il y avait un suicide en France.
Ouais.
Ils ont coupé la découverte du corps où tu vois les jambes qui pendent. Mais ils ont cadré suffisamment pour que tu comprennes qu'elle s'est pendue, quoi.
La case qu'il y a juste derrière où c'est Matt qui est là, la tête relevée. Ce qui est fort d'ailleurs, parce qu'il sait qu'elle est là. En plus, normalement, il l'aperçoit avec le sens radar, mais il lève la tête comme s'il la regardait, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, ouais.
Et la souffrance qu'il y a sur son visage, c'est assez.
Ouais, et puis le final, en fait, la façon dont il dessine déjà le brouillard pendant tout parce que l'épisode s'appelle Fog, brouillard, et dont il utilise. Effectivement, ce que tu disais, c'est une technique de plus, avec des scènes où tu as juste des petits points qui composent des personnages, et c'est super beau. Et l'épisode d'après, qui est, je crois, un épisode donc, qui se situe à Venise, qui a été imaginé par Mazzucchelli quand il était en voyage de noces avec sa femme à Venise. Donc, du coup, il a fait plein de croquis. D'ailleurs, tu le vois parce qu'à un moment donné, t'as Matt qui est dans une gondole. Et où ils combattent des fascistes. Des gens qui préparent le retour des fascistes en Italie. Comme quoi,
des fascistes avec des.
Il nous manque à Daredevil.
Il aurait beaucoup plus de mal, je pense, à se débarrasser s'ils sont beaucoup plus nombreux.
Et c'est clair.
Non,
c'est ça.
Oui, parce qu'eux, ils étaient dans les catacombes et dans le.
Ouais, voilà, dans le puits et tout. Mais j'adore enfin, cet épisode-là à Venise, j'adore le. Quand il se fait capturer. Quand il sort, il passe par le plancher, il essaie de percer le mur, il enlève tout son costume quasiment pour pouvoir travailler. Et puis après, ça cause tout un tremblement, ça bousille toutes les fondations du temps qui s'écroulent. Il va se battre avec les mecs en utilisant des boucliers. T'as l'autre qui arrive dans la chapelle, qui l'attend avec Camillo. C'est le Don Camillo, il est marrant. Mais non, c'est vraiment un épisode. Mais c'est vrai qu'au final, tu te dis, bon, l'épisode que Miller a réécrit, il arrive juste avant Born Again, il est sympathique. Mais au final, tu vois, pour moi, après ces deux épisodes-là à Venise, je mettrais Born Again tout de suite derrière, tu vois. Ça ferait pas tâche. Hein.
Ouais. D'ailleurs, après ces deux épisodes-là, tu sens que ouais, ils sont un peu en rate d'idées pour les épisodes suivants. C'est après 221. Et après, t'as quelques épisodes qui sont un peu plus faiblards. Bah, t'as déjà l'épisode avec Mr. Fear, là. Enfin, avec le gaz de Mr. Fear. Mmh. Ensuite, t'as l'épisode avec le Beyonder qui est assez foiré. L'idée est jolie, parce que c'est le Beyonder qui offre à Matt le don de vue. En fait, il retrouve la vue. Donc, t'as quelques pages qui sont jolies, mais c'est comme tous les épisodes avec le Beyonder. En fait, c'est encadré par des pages dialoguées. Mais vraiment, c'est des pavés de dialogue qui sont indigestes. Beyonder, il est con. C'est vraiment un personnage de chic, quoi. J'adore Shooter, tu vois, sur la Légion des super-héros. J'adore Shooter en tant qu'éditeur-in-chief là, sur les premières années de Marvel. Mais sur Secret Wars 2, il a vraiment chié dans la colle, quoi. Parce que là, tu sens que c'est l'idée de départ de Denis O'Neill, c'est vraiment de se concentrer sur Matt et sa redécouverte, en fait, des plaisirs de simplement la vision, quoi. Quelque chose qu'il n'a plus vu depuis qu'il est gosse. Et t'as toutes les interventions du Beyonder. En plus, c'est complètement débile parce qu'en fait, il demande à Nelson et Murdoch de trouver une loi pour qu'ils deviennent propriétaires de la Terre. Ça n'a aucun sens. Et puis ça finit, tu sais même pas pourquoi. Matt, en gros, Matt refuse le don parce qu'il veut rien avoir à voir avec le Beyonder, qui est tout à son honneur, mais t'as pas vraiment d'élément déclencheur en fait de ça. Quoi.
Non, mais ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment.
Ouais, c'est des trucs, c'est foutu d'avance.
Ces
épisodes-là. On peut dire aussi qu'on a une tripotée de couvertures excellentissime.
Oui.
Ah ouais.
Alors déjà, quand Matt Kelly est là, c'est la fête, mais on a aussi d'autres auteurs. On a Barry Windsor-Smith, je crois, qui vient faire une couverture.
Il fait une couverture qui a été reprise plein de fois, notamment dans l'album double de Comics USA, où il y avait un épisode de Wolverine d'un côté, un épisode de Daredevil de l'autre. On voit Daredevil et la Veuve Noire qui sont en 69, mais en 69 de Voltigeur, quoi. Avec New York derrière. La couverture, elle est superbe. Hein. Elle est vraiment,
j'aime bien le 216, moi, avec tout le titre The Gael is Back.
Ce qui est mythique, c'est là. Une couverture de Strange aussi.
Ouais. À la Spirit.
Ouais, à la Spirit, ouais. De toute façon, Will Eisner, là. Mythique.
Celle-ci, elle est vraiment superbe.
Alors, moi, j'aime bien celle du 195 par Klaus Johnson avec Daredevil qui combat des flics. Enfin, qui se fait tabasser par des flics.
Ouais.
Et fun aussi. Il y a plein de couvertures par John Byrne aussi. Il y a Carl Potts qui fait aussi une couverture.
Bah, la 200, c'est John Byrne, je crois.
La 200, elle est chouette.
Oui, Miller, il fait la couverture du numéro super bizarre.
Ouais.
dont on n'a pas encore parlé, qui est dessiné par John Byrne. Où t'as pas Daredevil.
Oui,
c'est John Buscema, non, qui dessine.
John Byrne. C'est parce que j'ai mélangé. Mais effectivement, dessiné par John Buscema, écrit par Frank Miller, avec L'Étranger.
Voilà.
Donc, qui est Matt Murdock, qui est déguisé comme, on ne sait pas pourquoi, comme Marlon Brando dans...
Après moi, nommé Désir.
L'Équipe Sauvage. Non,
L'Équipe Sauvage.
L'Équipe Sauvage. et qui arrive en, dans une ville qui est rongée par le crime.
Voilà.
Qui a l'air d'être, en fait, qui a l'air d'être coincé dans les années 50. Et où il finit en tôle, et puis finalement, il je crois qu'il loge chez une... Je ne l'ai pas relu. Il loge chez une
ouais, il va un peu aux putes, tout ça.
Non, il va chez la veuve d'un flic qui s'est fait...
Ouais, c'est ça.
Et en fait... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle voit, en fait, dans cet étranger, un peu le fantôme de son mari. Qui a été qui était le seul policier visiblement honnête, qui est un peu l'homme des hautes plaines quoi, de Clint Eastwood.
Et il dit pas un mot de tout l'épisode.
Oui, exact. Il est muet.
Il reste muet. C'est tous les gens qui parlent autour de lui.
Donc une histoire où il n'y a aucune explication de pourquoi on en est là, pourquoi Daredevil est là, pourquoi. Et il repart une fois le comment dire la ville nettoyée de ses ordures.
À la Luke.
Mais
c'est Sin City avant l'heure.
Sin City avant l'heure, ouais. Et en gros, c'est là-dessus que se basera quelques années plus tard Innocenti, quand elle fera donc péter les plombs à Matt à cause d'Inferno. À cause des démons qui attaquent New York. Matt, perturbé en fait, par sa rencontre avec des démons et avec Mephisto, va partir sur les routes d'Amérique sans dire un mot, pareil, et va devenir en fait cet étranger. Donc, en gros, ils pourront réintégrer rétroactivement cet épisode dans la continuité Marvel, parce que sinon il y a zéro explication de pourquoi.
Ouais, c'est tout.
Sinon que Miller a sûrement déjà en tête Born Again, et on sait que Miller aurait dû rester après Born Again. Il aurait dû enchaîner sur une autre saga avec Walt Simonson, mais que ça s'est pas fait quoi. Il a fait que Born Again et ensuite. Ils ont dû, pareil, ramer pour retrouver quelqu'un en vitesse. Ouais. Ils ont voulu mettre Steven Gellert. Steven Gellert a fait un épisode. Et puis finalement, entre-temps, Innocenti avait rendu un feeling qui était tellement bien qu'ils se sont dit, ah bah tiens, on va lui filer
le bébé.
Parce que Gellert voulait emmener Daredevil
dans l'espace
Non, sur la côte ouest. Aussi bien sur la côte ouest, il voulait qu'il rejoigne les Vengeurs de la côte ouest. Avec voilà. Il y a toujours des idées bizarres avec Engelhardt. Parce que Engelhardt, c'est le seul scénariste au monde à faire des idées de merde et à les rendre comestibles.
Passionnantes.
Ouais, voilà, exactement. C'est même plus comestible, c'est passionnant. Ouais, c'est en fait à les rendre logiques et passionnantes.
Si, c'est le seul. Ça va marcher. Attends, laisse-moi faire, tu vas voir.
Attends, laisse-moi faire, regarde, tu vois.
Okay. Attends. Mais non, mais Steve, ça peut pas. Si, tu vas voir.
Tu en fais un Steve.
Tiens, ma bière.
Tu peux m'expliquer, Master Pandemonium, bah, c'est un mec. En fait, il a une étoile dans le bide, et en fait, une étoile vide dans le bide, et en fait, son étoile, c'est 5 branches et les 5 morceaux de son âme. N'en dis pas plus. Ouais, ton chèque.
Tiens ma bière. Je vais te montrer.
Imagine quand même quand tu dois écouter les pitchs de Engelhardt, ça doit vraiment ressembler à rien en fait quand il vient.
Ouais.
Arrête, c'est bon. D'accord, de savoir où tu vas.
Ah les architectes.
Mais ils me font rire maintenant avec leurs idées venues du cosmos, du métavers, machin comme ça. Ça vaut rien par rapport à Steven Gellert. Alors c'est Mantis, alors je vous explique.
Vous allez voir, ça va être fun.
La fille du super-vilain, vous vous souvenez, on a le Zodiac. Et ben, c'est, vous voyez, dans le Zodiac, il y a la Balance. Et ben la Balance, sa fille, c'est en fait une tenancière de bar. C'est une prostituée dans un bar vietnamien. Mais en gros, elle va devenir la Madone Céleste. La Madone Céleste, mais qu'est-ce que c'est? Bah alors la Madone Céleste, je t'explique. C'est elle, en fait, elle doit faire naître en fait le prochain Messie cosmique. Et pour faire naître ce Messie cosmique, elle doit s'accoupler avec une race d'arbres géants qui viennent de l'espace, qui s'appelle les Kotati. Mais vous allez voir, c'est relié avec les cris, avec les scrolls, j'ai tout.
J'ai besoin du Swordman et c'est bon. Tu vas voir, ça va être génial.
Ouais, alors ça, c'est la grande question hein, quand même. Comment il réussissait à vendre ses idées?
Oh, mais je sais.
Et tu vas faire quoi avec Captain America? Bah, il sera plus Captain America, il va devenir le nomade. Le nomade, bah oui. Avec un costume, avec
bouclier.
Échancré. Devant. Président des États-Unis, le méchant. Non,
Steve. Ouais, le méchant. Bah oui, parce que
Nixon. Ah, bah, allez voir, ça va être totalement
crédible. Bah oui, c'est normal, c'est parce que Nixon, c'est le méchant. Comment ça c'est lui qui.
Le président des États-Unis, un président ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire ça. Hey, il avait tapé juste.
Bientôt, on vous fera un topo sur une série d'Angleheart, tout va ça.
Ah, c'est
ouais.
Ah, putain, Angleheart, qu'est-ce que je l'aime.
Il y aura de quoi dire.
Oh, putain,
donc oui. Il a failli écrire dans Art de Vie.
Ouais.
C'est Innocenti qui a fini par... qui est aussi braque. Hein, Innocenti.
Ah oui, ouais. Ça vaut le détour, ouais. Hein. Son run aussi, mais effectivement, il va loin. Hein, dans les...
Ouais.
Elle fait du vertigo, elle, un peu. Hein, dans le...
Ouais, clairement, ouais.
On est un peu dans le même délire, quoi. Ouais, carrément, ouais. Si on suit... Oh non, numéro moi, c'est un run que j'aime beaucoup. Hein.
C'est quoi, pour l'avoir relu, numéro 9, c'est ça, la...
Ouais, la fine génétiquement modifiée, enfin, le clone, pour notre plaisir. Ouais.
Ce qui est fort, c'est aussi de te dire, enfin, moi, pour l'avoir relu il y a, je sais pas, un ou deux ans, c'est de voir à quel point, justement, elle arrive juste derrière Miller, et puis elle a cette période, peut-être un an, je crois, où en fait elle fait plein de trucs, elle tente des trucs, elle repart en fait sur l'idée de Daredevil, donc qui revit à Hell's Kitchen, qui travaille à aider les gens et tout ça. Et elle expérimente plein de choses, quoi. Et c'est pas toujours réussi,
mais en tout cas, elle tente, tu sens
et
que.
De ce que je me rappelle un épisode avec dessiné par Rick Leonardi, je crois, avec Wolverine, qui est pas mal du tout, et il y a deux, trois choses. Et en fait, là où ça explose, bah, c'est avec Romita Junior quand il arrive, quoi.
Ouais, c'est des épisodes, moi, je trouve, avec Rick Leonardi, où tu vois que ça y est, elle a compris. Elle a compris le... Elle sait ce qu'elle veut faire. Et à partir de ce moment-là, elle est lancée là jusqu'à... Parce qu'il n'y a pas seulement la période de Romita Junior, il y a aussi après, quand Kieron Dwyer
avec Lee Wicks.
Il devient boxeur, là. C'est vraiment super.
Ah, c'est super.
Qu'ils ont plus ou moins refait dans la troisième saison de Daredevil, la série qui était sur Netflix. Et autant j'avais vraiment pas accroché moi aux premières et aux deuxièmes saisons, et autant la troisième saison je trouvais ça vraiment super parce que c'était le vraiment cette adaptation de cette période-là. En fait, il y avait Bullseye et Bullseye ils l'ont vraiment fait comme le Bullseye de Innocenti en fait, où tout le point de départ c'est que Bullseye se déguise en Daredevil pour lui pourrir sa réputation toute la storyline de la troisième saison est basée là-dessus quoi. J'avais trouvé ça j'aime beaucoup moi la période vraiment où il revient à New York là, après les passages sur les routes. De toute façon moi je trouve tout l'arc à partir du moment où Romita Junior débarque là, les épisodes sur l'Apocalypse. C'est la seule qui arrive à bien se servir de et Fall of the Mutants et Inferno.
Ouais, Inferno, c'est les meilleurs épisodes d'Inferno. Hein. Ceux avec Daredevil où la ville devient vraiment folle. Tu sens que c'est l'enfer de vivre à New York à ce moment-là. Et que ça laisse pas indemne.
Ouais.
Non, il y a vraiment des visions choquantes et tout.
La bière avec le diable, moi j'adore l'épisode de
Daredevil. Ah, super.
Oh,
c'est juste une discussion dans un bar à New York entre Daredevil et il y a plein de, en fait, il y a plein d'habitués de ce bar qui commencent à péter les plombs petit à petit les uns après les autres, mais de façon pas outrancière en fait. C'est des petites mesquineries, c'est des petites engueulades. Mmh. Je crois qu'il y a deux frères qui finissent par s'engueuler parce qu'il y en a un qui veut pas venir au repas de famille ça se finit. Il y en a un qui poinçonne l'autre et il y a un vieux alcoolo qui regarde une femme et en fait d'un coup il y a des passages à la Lynch quoi. Il y a des passages à la Twin Peaks où le mec est effrayé et tu sais pas pourquoi et surtout qu'il dessine pas et vraiment cet épisode là c'est ça s'appelle Une bière avec le diable et tu sais pourquoi à la fin et c'est vraiment
c'est génial.
Ouais, super. Donc là pour le coup Romita Junior avec Al Williamson à l'ancrage
c'est sûrement son meilleur travail je pense.
On a discuté un peu mais c'est super bien.
Mais bon, comme ça on vous recommande. Il y a des bonnes tranches dans Daredevil hein, quand même.
Oui, c'est
il
pas
a été bien serve tout au long des tout au long des années.
On a connu pire hein, comme mais on n'est pas là pour parler de Green Lantern.
Oui, non. je sais pas, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a encore des choses à ajouter sur ce run de Denis O'Neill qui est quand même chaudement recommandé?
Moi, je trouve que ça fait aussi galop d'essai. C'est un run que j'aime beaucoup. Parce que il arrive à tenir en fait l'intérim entre Miller 1 et Miller 2.
Ouais.
Il arrive à s'extirper petit à petit de l'ombre de Miller. Bon, tu vois qu'il était quand même superviseur éditorial sur la série avant, donc il y a une espèce de filiation quand même qui se. Le père devient le fils et le fils le père, hein, comme on dit dans Superman. Superman, ouais. Moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est, et on en parlera sûrement une fois de cette série, mais c'est un galop d'essai pour moi pour Denis O'Neill pour The Question.
Ouais.
Là va être vraiment où tu sens qu'il est pour le coup en pleine position de la série. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait sur Daredevil, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il va faire avec Denis Cowan sur The Question, la 36 numéros.
Mythique, ouais. Ouais. Bon, faut dire que Denis O'Neill, il sait tout écrire, mais alors quand tu lui donnes les rênes complètes d'un truc, et que c'est son projet, que c'est son. Voilà, son truc où il s'investit pleinement.
Avec un autre justicier rouquin, catholique, qui a des problèmes avec les femmes, qui a qui ne sait pas s'il doit continuer à être un super-héros ou pas, qui est dans une ville qui est encore plus pourrie que New York des années 80, mais qui est vraiment, vraiment une ville de merde, une city. The Question, vraiment.
C'est un dépotoir. The Question, qui est le personnage qui a inspiré Rorschach pour
Et d'ailleurs,
les Watchmen, hein, rappelons-nous.
Ouais. Et d'ailleurs, on voit Rorschach dans un épisode.
Ouais, dans un épisode.
Il y a un épisode où The Question lit Watchmen. Ce qui veut dire que dans l'univers DC, sur la Terre de
Watchmen,
DC,
est une BD.
Watchmen est une BD. Ouais. Mm. Logique par rapport aux crises du multivers qu'on expliquera un jour.
Dans un épisode très spécial qu'on fera que si vous nous réclamez à corps et à cri. dans les commentaires. Ouais. Je sais pas s'il y a pas une petite pique à Miller quand même dans le justement avec le Bullseye qui raconte le souvenir qu'il a de la nuit où Matt vient le pointer avec le flingue dans sa chambre d'hôtel et il lui dit je sais pas, je t'écoutais, je sais pas ce que tu me racontais pendant toute la soirée, mais c'était à moitié je sais pas de quoi tu m'as déblatéré pendant tout ce temps, mais ça servait à rien, de toute façon je suis de retour. T'as un peu l'impression qu'il lui dit tu t'es pas un petit peu regardé écrire sur cet épisode là
Oui, parce que Bullseye lui dit, lui dit, mais en fait, moi, je pensais que tu venais, que t'allais buter.
Ouais, ouais, que t'avais, voilà, t'allais en finir avec moi, puis je sais pas, tu m'as raconté n'importe quoi. Ça,
ouais, voilà, tu m'as parlé de ton père, là, j'ai rien compris. Qui est Daniel Soulé, effectivement, de Miller, ouais. Ah ouais. Ou qui est... Effectivement, ouais, tu peux le prendre comme une critique et tu peux le prendre comme...
Coney, il est quand même moins verbeux que Miller. Quand il écrit, c'est... ça va plus à l'essentiel dans les dialogues, je trouve.
Ouais, en fait, ça dépend quelle période de Miller, mais c'est vrai qu'effectivement, dans ces années-là, tu sens que... Il n'y a qu'à lire
le dernier épisode
là, où, et même le début, j'adore Born Again. Hein. C'est, je ne critique pas Born Again, mais Born Again, tu as quand même des placards. Il n'arrive pas à l'épure qu'il va arriver avec Batman Year One.
Ouais, où, Batman après, Year One,
là, pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment... Batman Year One, il n'y a que les mots qu'il faut, on va dire. Il n'y a que les mots qu'il faut et ce qu'il va accentuer après quand il va faire Sin City et 300. Quoi.
Là, c'est peu à peu, en fait, où il est pur de plus en plus, en fait, au fur et à mesure. Ouais.
Mais ça, c'est le problème. Pardon, c'est le problème des dessinateurs quand ils deviennent scénaristes. Où il faut absolument qu'ils montrent qu'ils sachent utiliser la langue. Et du coup, ils peuvent pas s'empêcher d'en écrire trop. Parce que même Byrne avait ce problème dans certains.
Ah oui, clairement. Mais tu vois, sur Miller, Pérez, quand je voyais...
Pérez, c'est chaud.
mais t'as une différence aussi de maîtrise. Enfin, tu sens quand Miller commence à maîtriser ça, parce que sur Ronin, t'avais un peu ce petit truc. Par contre, quand tu vois Sin City, qui est incroyablement verbeux, mais c'est incroyablement... construit dans son dessin même.
Oui.
Il y a quelque chose de totalement uni avec son dessin sur Sin City.
Ouais. Tu sens que ça part d'abord du dessin. Ouais. Et après,
même 300.
On rajoute du dialogue, ouais.
Même 300. Alors 300, il y a moins de dialogue. Pour le coup, t'as vraiment le ce qu'il faut. Mais Sin City, tu sais que là, il maîtrise tout et c'est pareil. Hein, c'est...
Mais tu sens, enfin les épisodes de Daredevil de Miller, les premiers, donc pas Born Again, mais la première période quand il commence à être scénariste dessinateur, il y a quelque chose quand même que n'a pas O'Neill, c'est le dynamisme vraiment de la composition. Mais ça, tu peux pas l'avoir à moins de faire ce que fait Miller, c'est-à-dire être à la fois scénariste et dessinateur. Ça, c'est quelque chose, c'est l'avantage. C'est Mark Waid qui disait ça. Il disait on peut avoir le meilleur scénariste du monde. Il parlait de la différence entre Watchmen et Dark Knight Returns. Il disait qu'il préférait Dark Knight Returns parce qu'il disait qu'il préférait. Ce qui est étonnant de la part de Mark Waid, qui est plutôt un scénariste, il disait au bout d'un moment, tu vois quand même. Qu'il y a un mec qui s'occupe du texte et un mec qui s'occupe des dessins et que c'est pas le même cerveau. Alors que il y aura toujours un avantage à quelqu'un qui maîtrise les deux. Alors encore faut-il qu'il soit aussi un bon scénariste qu'un bon dessinateur. Hein. C'est pas donné à tout le monde. On l'a vu après.
Pensez aux amis d'Image.
Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que part de quelque chose d'instinctif sur la page et que le aussi bien tu vois les épisodes que je préfère de O'Neill sur Daredevil avec un Mazzucchelli au top, genre l'épisode avec le Two Gun Kid ou l'épisode Fog, aussi bien soit-il, je trouve qu'ils sont pas au niveau de ce que tu as quand Miller est scénariste dessinateur même sur sa première période et qu'il apprend le métier. Il y a rien qui est aussi tu vois aussi dynamique et enlevé que par exemple comment ça s'appelle Ticket Tape Parade, l'épisode avec le gamin qui a piqué je sais plus quoi qui ça se finit dans la parade de Thanksgiving de New York avec ça il pique quelque chose pour faire chanter des tonnes de truands. Il y a Luke Cage et Iron Fist C'est pas un épisode qu'on sort souvent, on sort plutôt la mort d'Electra ou les épisodes avec Bullseye. Mais par exemple, rien que cet épisode-là, moi je trouve que c'est un bijou de construction. Quoi, où, c'est... Et l'autre, ben, c'est... l'autre, juste, je finis juste sur l'autre, comment, l'autre proche que j'aurais sur O'Neill, c'est qu'il oublie constamment que Matt Murdock c'est un avocat.
Oui, ça.
Après, c'est aussi le thème de la saga. C'est le fil rouge du truc, c'est que Daredevil oublie qu'il a une vie en dehors de Daredevil. Et c'est y a même des réminiscences de Stick qui lui rappellent que si jamais tu oublies que tu as une vraie vie, ton truc de justicier, ça passera au tableau, quoi.
Ouais, mais ça, tu sens ça, que ça arrive, ça arrive au bout des...
Oui, tu sens qu'il n'a pas envie de faire d'histoire de procès.
Ouais. Tu sens que...
Là pour écrire la loi de Los Angeles.
Oui, mais tu sens que justement quelqu'un lui a fait les reproches et puis qu'il s'est dit ah oui, merde, j'ai peut-être un peu oublié dans tous mes épisodes que ouais, c'était un avocat. Bah,
d'ailleurs, Foggy l'engueule en lui disant tu devrais perdre beaucoup de pognon avec ton voyage au Japon. Ou je sais plus où il va, à Venise, machin. Les fonds sont pas illimités non plus. Hein,
mais c'est pris pour
pas Bruce Wayne, quoi. Tu passes sur notre deux frais.
Tu fais passer sur notre deux frais, t'es quand même un enfoiré. Quoi.
De toute façon, Denis O'Neill dit qu'il préférait travailler sur Batman quand même. Il a bien aimé faire Daredevil, mais.
Il s'en sort bien. Moi, c'est en ça que j'aime ce run. C'est aussi. Comment à une période en fait quand un auteur s'en allait, t'avais pas l'impression quand l'autre personne derrière reprenait, t'avais pas l'impression de te dire bah c'est un nouveau volume comme aujourd'hui tu as.
Ouais.
Tu en es à 7 ou 8 volumes de Daredevil, enfin t'as la continuité. Enfin vraiment O'Neill veut faire ses trucs, mais en même temps il s'est dit bon ben voilà ce qu'il y a eu derrière, je vais continuer, je vais prolonger, je vais après un peu adapter ma sauce. Ce qui est assez dingue, c'est de se dire le mec qui reprend derrière lui, c'est encore Miller, ce qui fait que ça crée une période assez incroyable qui est. J'imagine qu'il y en a eu d'autres, mais à mon avis, pas beaucoup hein, quand même de dire. Il y a eu l'Excalibur avec Alan Davis, ou en même temps, qui est une bonne preuve d'un intérim complètement foireux et complètement à côté de la plaque et que Davis a dû tout refaire pour essayer de rendre ça un peu intelligible. Et pour le coup, là, on a quelque chose d'un mec qui sait que il pense au lecteur, quoi. On continue l'histoire, on va continuer et puis on va amener peut-être à faire d'autres choses, mais peut-être aussi à continuer tout ça. Mais il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de rupture. Moi, quand j'ai commencé à lire toutes ces périodes, que je prenais tout ça un peu en vrac, j'ai pas capté à un moment que c'était plus le même de. Parce que j'étais con, je lisais pas les crédits, moi, je lisais les aventures. Je captais pas que c'était pas le même scénariste qui écrivait, quoi. Donc,
Non, mais c'est vrai.
Pour moi,
c'est vrai,
les aventures de Daredevil.
Quand t'es gamin et que tu regardes pas les auteurs.
Ouais.
Et c'était ça passait crème, quoi. C'est comme quand ils ont remplacé Stern par Tom DeFalco. Tom DeFalco, il continue sur les bases qu'a
sur Spider-Man.
Sur Spider-Man, ouais, exact. J'ai oublié de le dire. Et, par exemple, tout à l'heure, je parlais du revirement là de Foggy dans le dernier épisode de O'Neill et Miller. C'est vraiment parce que je l'ai relu là. Que je me suis dit, ah ouais, tiens, quand tu les relis d'une traite, mais mois après mois, il n'y avait pas de... C'était juste, Foggy devient normal, quoi. Il arrête de se plaindre.
C'est vrai, c'est un malentendu.
C'est en ça que vraiment, c'est une période à revoir, quoi, à redécouvrir, parce qu'il y a quand même, malgré plein de critiques qu'on peut faire, il y a quand même des beaux morceaux, quoi. C'est vraiment...
Si vous voulez un Daredevil bien écrit
et bien dessiné,
et peut-être la meilleure histoire autour du vautour, vous pouvez vous jeter sur ces épisodes qui doivent arriver, je pense, dans les intégrales de Daredevil tôt ou tard. Je sais pas où ils en sont,
mais je sais même pas si aux États-Unis ça a été réédité entièrement cette période en récent.
C'est pas réédité en Masterwork, c'est pas réédité en Epic.
Ouais,
d'accord. C'est des épisodes à ressortir. Ah ouais, là, c'est bizarre quand même de se passer à côté d'épisodes de Matthew Kelly quand même. Il n'a pas fait des masses non plus.
Ah, mais je pense qu'il y a moi je pense qu'il y a la problématique Mika Sin.
Ouais. Qui est une histoire qui a quand même ces histoires. Ouais.
Ouais. Je pense que ça a dû faire grincer des dents.
Ouais, parce qu'il y a quand même une femme qui dit quand il apparaît en ville, il peut me frapper dessus, il peut taper dessus tant qu'il veut. Ça me dérange pas, il est tellement beau.
Bon, après, c'est pas non plus le seul comics Marvel où il y a des conneries de ce
genre
qui ont été rééditées. Hein, donc, il n'y a pas non plus. Tu vois,
il n'y a pas mort d'homme non plus.
Il n'y a pas de mort d'homme non plus, ouais. Puis il faut arrêter non plus de surdramatiser ce genre de truc. Mais non, ce qu'on dit par là, c'est que, ouais, effectivement, je pense que c'est pas une saga où tu te dis. Ah tiens, on va éditer ça, mais les épisodes qui sont après Mika Sin, c'est-à-dire toute la période Two Gun Kid jusqu'à Born Again, franchement, ça vaut le coup, quoi.
Mais même dans les épisodes de Mika Sin, il y a du bon, hein, je veux dire, quand il s'allie avec le Kaïd et tout ça, en plus c'est dessiné par Matsu Kelly, donc ça...
Ouais, ouais.
Ça pourrait tout à fait être édité.
Les épisodes au Japon, t'as quand même la création de Death Strike.
Ouais, donc, c'est l'épisode 200... Puis c'est quand même c'est un super épisode en vérité.
Ouais.
Ouais, c'est quelque chose qu'ils ont. Non, qui est un peu tombé dans l'oubli.
C'est le concours circonstance. Hein. Tu sais, regarde, pendant très longtemps, ils n'avaient pas réédité justement toute la période de Anne Senti. Et c'est que depuis.
Ouais. C'est vrai.
Je sais pas, pas une dizaine d'années que tu as eu des épis qui sont sortis. Et encore, il n'y a pas sa période avant Romita Junior. Je crois qu'il va bientôt sortir d'ailleurs cette période-là.
Ouais, je crois qu'il est sorti il y a peu de temps. Ouais.
Ouais. Et voilà, donc non, je pense que c'est plus un concours de circonstances et dans pas longtemps, ça sortira bien un jour ou l'autre, quoi.
Ouais. Mais après, peut-être qu'ils veulent trouver une manière de rééditer un peu proprement les Matsu Kelly.
Ouais.
Parce que peut-être qu'à l'impression, ça rend peut-être pas justice sur des trucs.
Quand il y a quand même l'album Love Labor's Lost. Qui réimprimait plusieurs épisodes de Matsu Kelly qui avait été réédité quand Quesada était arrivé, je crois. Donc il y a quelques numéros quand même qui ont été réédités en TPB, mais c'est vrai pas un run in extenso, et notamment les deux épisodes avec Harlan Ellison. Tu les trouves pas non plus sur le Marvel App. Certains épisodes. Ouais. J'avais essayé de les lire sur Marvel App et je les ai pas trouvés. Donc du coup, j'ai acheté les numéros. Parce que
les numéros. Ouais, ça se trouve les numéros originaux.
Ouais, les numéros originaux, les numéros singles sont pas super cotés. Je crois que les plus cotés, c'est les apparitions de les numéros Japon.
Ouais.
Notamment celui avec Wolverine, parce que c'est la première apparition de Lady Deathstrike.
Lady Deathstrike, d'accord. Ils sont plus cotés que Matsu Kelly.
En tout cas, moi je l'ai. Les Matsu Kelly, franchement, je les ai eus pour rien.
Ouais,
il y en a. Je les ai vraiment eus.
Vous savez ce qu'il vous reste à
faire. Non, maintenant, ceux qui coûtent la peau des fesses, c'est les. Enfin, pas la peau des fesses.
Born Again.
C'est les Born Again, ouais. Qui sont après, mais genre on n'a pas beaucoup parlé de l'épisode. Moi j'aime beaucoup l'épisode avec le pitre, qui est dessiné par Sal Buscema, qui fait vraiment un super boulot avec.
C'est Sal Buscema qui dessine ça. Mais il est pas ancré par Akiné Garvey aussi.
Ouais.
Sur ce truc là, ok.
Ouais.
Mais j'aime bien.
Sal Buscema.
J'aime bien sa chute, le fait qu'il veuille juste jouer Cyrano de Bergerac parce que l'autre est mauvais, quoi.
C'est mignon, quand même.
Il est très doué.
J'aime bien. Puis bon, moi j'adore Cyrano, donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir.
Oui, puis ça fait... Ça, par contre, ils avaient tout passé dans Strange. Parce que...
Ouais.
Cocorico.
C'est la France. C'est la France, ouais. Monsieur.
C'est la France, monsieur.
Parce qu'il n'avait pas fait la couverture. Mais...
Je crois pas. Mais je.
Merci.
À vérifier.
À vérifier.
Ok, bon, voilà, on a fait le tour. Vous aurez compris, c'est encore une saga à découvrir, jetez-vous dessus. d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous avez bien compris qu'on ne savait pas sous quel format vous le recommandez. Mais en 2023, on sait comment faire quand même. Voilà. Bon, bah, les amis, merci beaucoup d'être venus.
Bah, merci.
Merci.
Ton ordinateur a tenu.
Voilà, ouais. On avait un gros suspense sur savoir si j'allais garder en état de marche mon ordi. Est-ce que la batterie allait tenir ou pas? Elle a tenu, c'est même rechargé, je crois, entre temps.
À combien de pourcents alors?
Eh bien, je suis à 100% maintenant. C'est...
Oui, c'est magnifique.
Ça finit par se charger, en fait, pendant qu'on travaillait. Ouais. C'était merveilleux monde moderne. Voilà, c'était juste pour faire chier un petit peu avant de démarrer. Histoire de démarrer dans des mauvaises conditions. voilà, bah, je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi dispo sur YouTube. On est aussi dispo sur les mauvaises plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez aussi nous envoyer des sous, si vous le voulez. Comment faire pour nous envoyer des sous? Exactement. Voilà.
Vous mettez votre argent, nous on vous rembourse plus tard.
Voilà, ouais. C'est ça. Moi je connais un mec qui peut investir. Ouais. On vous recontacte. On a fait le tour, puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des comics. Oui, dis-nous.
On répondra en vitesse parce qu'on a eu plein de réponses sur le Captain America de Stern et Byrne. Ça fait plusieurs fois qu'on oublie de répondre. On est désolé, c'est très gentil, nous a envoyé plein de remarques. Oui. Mais on oublie à chaque fois. On essaiera la prochaine fois de faire un petit, une petite réponse pour ces remarques.
Ouais, toutes nos confuses. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des remarques, on vous répondra, même si ça prend du temps. Parce que la vie est ainsi faite. Etc. Les amis, à bientôt. N'oubliez pas qu'on a notre série aussi Burn Baby Burn qui est en ligne. Avengers Rassemblement sur les Vengeurs de Roger Stern. Tout ça, c'est dispo. Il faut sauver la soirée ciné aussi, notre podcast sur le cinéma qui démarre. Tout ça, si vous avez la petite cloche, vous êtes informé dès que ça sort, hein, tout simplement. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer, puis on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.
Bye.